Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission De l'art dans les oreilles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un artiste français assez peu connu du grand public, mais qui fait l'objet d'une magnifique exposition en ce moment jusqu'au 22 mai au Musée du Louvre. Valentin de Boulogne, réinventé Caravage, c'est donc le titre de cette exposition. Et j'accueille à mes côtés Annick Lemoine, maître de conférences à l'Université de Rennes 2, directrice scientifique du Festival de l'Histoire de l'Art et également commissaire donc de cette exposition qui d'ailleurs, je le rappelle ici, a été présentée déjà à l'automne dernier au Metropolitan Museum of Art de New York. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette émission, Annick Lemoine.
Bonjour.
Alors, ensemble, nous allons revenir au début du XVIIe siècle, à Rome. Valentin de Boulogne est un jeune artiste français né à Coulommiers en 1591 qui décide de partir à Rome où il va vivre avec notamment d'autres artistes de l'époque ce qu'on a appelé la révolution caravagesque. Alors qu'est-ce que c'est précisément que cette révolution caravagesque? C'est lié donc au grand peintre Caravage?
Oui, bien entendu. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, effectivement, Caravage arrive à la fin du XVIe siècle. Ça n'est pas le seul artiste puisque Rome est à ce moment-là vraiment un vivier extrêmement riche et varié d'artistes et la capitale artistique de l'Europe, là où tout artiste ambitieux souhaite à la fois parfaire sa formation et trouver fortune, étant donné que c'est à la fois le lieu privilégié où découvrir les antiques les plus célèbres, redécouvrir les chefs-d'œuvre de la Renaissance, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, et surtout être au contact direct des multiples évolutions de l'art contemporain. Au début du XVIIe siècle, les grandes figures et les principales révolutions, si on peut les appeler comme ça, sont celles d'artistes bolognais, ce qu'on appelle les Carrache, Annibal, Ludovic et Augustin Carrache, et qui vont promouvoir ce qu'on appelle le beau idéal dans la tradition directe de la Renaissance, et Caravage, venu du nord de l'Italie, qui va effectivement bouleverser et renverser les codes traditionnels de l'art de l'époque, à la fois la pratique, la formation et puis le résultat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Caravage arrive déjà avec une formation de l'école du Nord, où prime l'intérêt pour la couleur et la lumière, et c'est un artiste qui ne peint pas à fresque, à la différence de ses contemporains, et qui a priori ne dessine pas, mais peint directement sur la toile, une toile préparée, transforme ses compositions au fil de son élaboration directement sur la toile.
Spontanéité en fait de la peinture chez Caravage.
Spontanéité, c'est extrêmement travaillé, mais une pratique différente des autres artistes où le dessin ne prime pas, le dessin préparatoire. Par ailleurs, il n'a pas un atelier avec de nombreux suiveurs ou élèves, et ce qui prime dans sa peinture, la pratique de ce qu'on appelle la pittura dal naturale, ce qui veut dire la peinture d'après le modèle vivant. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Caravage peint avec un modèle devant les yeux, ce qui était aussi le cas des autres artistes, mais qui souvent dessinaient d'après le modèle vivant, notamment les Carrache, qui sont un peu l'autre courant et les artistes par rapport auxquels Caravage aussi rivalise. Mais Caravage va faire en sorte de laisser visible et tangible cette présence du modèle vivant et la réalité de sa pratique. Les autres artistes très souvent peignent d'après le modèle vivant, puis ensuite transforment le travail d'après le modèle vivant pour, en fonction de ce qu'ils sont en train de peindre, et souvent pour l'idéaliser. Or, Caravage, lui, au contraire, va laisser visible la présence du modèle et les citations du quotidien, justement pour donner ce caractère tangible, vivant, quotidien à la peinture.
Une certaine vérité aussi.
Une certaine vérité très forte qui est par ailleurs mise en scène par d'autres éléments introduits et surtout métamorphosé et mis à sa propre, si je puis dire, sauce personnelle, c'est-à-dire toujours l'usage de cadrage extrêmement resserré, l'abandon de tout arrière-plan développé, de perspective, comme ce qui se pratiquait à l'époque, notamment dans ce qu'on appelle l'art maniériste, l'usage aussi d'un clair-obscur extrêmement contrasté, hein, un contraste entre des ombres très fortes et des coups de projecteur, comme au cinéma aujourd'hui, extrêmement fort également, qui vont participer à mettre en scène et dramatiser
la scène.
Une théâtralité très expressive, nouvelle, beaucoup plus chargée que ce que l'on pouvait faire aussi à l'époque. Et un goût du drame et également cette intrusion du quotidien et de la présence tangible et vivante des modèles, à la fois par le fait qu'on a l'impression de voir le portrait d'homme du quotidien et la citation aussi d'éléments du quotidien, puisque les personnages sont habillés de façon contemporaine, les accessoires sont aussi celles du quotidien du peintre, et par ailleurs, dernier élément, il va aussi, Caravage, mettre à la mode des sujets tirés du quotidien et tirés du quotidien des bas-fonds de Rome, ce qu'on appelle des scènes de genre, mais d'un genre tout à fait particulier, qui en fait était à la mode dans la littérature et le théâtre de l'époque, ce qu'on appelle le roman picaresque par exemple, ou le théâtre populaire, la commedia dell'arte, mais c'est vraiment Caravage qui va en faire des sujets très ambitieux, avec la diseuse de Bonaventure, célèbre, qui se trouve aujourd'hui au Louvre, ou bien les tricheurs.
Les joueurs de cartes.
Les joueurs, voilà, c'est ça, c'est des joueurs de quatre et qui trichent.
Et ce sont des scènes de concert, de musique aussi.
Et des scènes de concert.
C'est un folklore, en fait.
Effectivement.
Qui est peint par Caravage.
Par Caravage, mais qui rencontre un énorme succès et qui va être immédiatement protégé et collectionné par l'élite de l'époque, c'est-à-dire les cardinaux, comme le cardinal Del Monte, les plus grands collectionneurs de l'époque, comme le marquis Vincenzo Giustiniani. Donc en fait, il ne faut pas penser que Caravage était écarté. Mis de côté. Il a des détracteurs extrêmement violents parce qu'il a un tel succès, évidemment.
Oui, et puis il a un style très différent des autres. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que Caravage, qui est finalement un artiste assez seul, autonome, va faire école, un peu malgré lui peut-être, parce qu'il, lui, n'a pas d'élèves, en fait.
Effectivement, alors il a toujours un ou deux assistants, mais il ne va pas fonder, comme je le disais en introduction, un atelier et s'entourer d'élèves. On raconte aussi, les sources en témoignent, qu'il détestait au contraire que l'on le copie, qu'on le reprenne. Et pourtant, son art a introduit un tel bouleversement, rencontré aussi un énorme succès, tout autant auprès des amateurs que des artistes, au point où également des sources, et notamment nordiques, racontent que voilà, c'est un véritable phénomène et tous les artistes se mettent à peindre à la manière de Caravage, mais chacun à sa façon. Caravage quitte Rome en 1606 après avoir assassiné un de ses partenaires de jeu.
Alors, il a une vie aussi.
Il a, alors, ce qui participe aussi au mythe de Caravage, c'est sa vie dissolue, ses mœurs. C'est un personnage haut en couleur, sans doute avec un caractère extrêmement tranché. Et ses frasques, et surtout ce qui va motiver l'assassinat de Tommasoni, va motiver sa fuite, son départ pour Naples en 1606.
Il
quitte Rome.
Mais son art reste très présent à
oui,
Rome.
Oui, étant donné qu'il peint essentiellement à Rome pour les églises, à la suite de commandes publiques. Donc c'est dire l'importance, l'intérêt, la reconnaissance officielle, entre guillemets, que Caravage a obtenue immédiatement ou très rapidement à Rome, dans différentes églises romaines, Saint-Louis des Français, voilà. Sant'Agostino, Santa Maria del Popolo, etc.
Et donc les scènes de vie quotidiennes.
Les scènes de genre, les scènes de vie, ah oui, c'est exclusivement pour les collections. Pour les collections privées, elles se retrouvaient dans les palais romains, mais il faut savoir aussi que ces collections semblent a priori avoir été pour certaines aisément accessibles, et notamment pour les artistes, puisque les artistes qu'on appelle les caravagesques, qui vont donc reprendre la leçon de Caravage et la réinventer, sont aussi des artistes qui vont être protégés, recherchés par les mêmes mécènes de Caravage, et du coup avoir accès à leur collection. qui est extrêmement riche d'œuvres de Caravage, mais aussi des chefs-d'œuvre du XVIe siècle, de Titien, de Véronèse, du Bernin, de Poussin, puisque l'un n'excluait pas l'autre. Il faut avoir bien ça présent, cet élément-là à l'esprit.
Alors, Valentin de Boulogne, notre artiste, lui est à Rome et il voit des œuvres de Caravage.
Ah, bien entendu, comme tous les autres artistes, il va sans doute faire le tour de toutes les églises où se trouvaient des œuvres de Caravage, mais on sait également qu'il a travaillé pour plusieurs mécènes de Caravage, notamment le marquis Vincenzo Giustiniani et un autre grand protecteur et mécène de Caravage, Asdrubale Mattei. Ce dernier, qui a un palais à Rome, va décorer sa galerie. La galerie, c'est l'espace le plus important d'un palais romain, et il va faire appel à toute la jeune génération active à Rome et les artistes les plus talentueux, et parmi ceux-ci il choisit non seulement Pierre de Cortone mais également Valentin de Boulogne. Donc Valentin va peindre un tableau, et c'est le premier tableau documenté certain de sa carrière, donc extrêmement important, qui représente la dernière scène. Vous pourrez l'admirer dans la deuxième salle de l'exposition. Il provient de Palazzo Barberini à Rome, et donc c'est un jalon très important dans sa carrière, mais ça montre aussi l'importance qu'il va acquérir et l'accès direct aussi à certaines toiles de Caravage, puisqu'on sait qu'il travaille pour ce mécène. Et donc Valentin est de manière évidente, lorsque vous verrez l'exposition et dans toute son œuvre, la présence de l'art de Caravage est extrêmement forte du début jusqu'à la fin. Ça, c'est aussi un point original de Valentin, c'est qu'il reste fidèle à la leçon de Caravage et ce qu'il en a tiré du début à la fin de sa carrière.
Ouais, il reprend les mêmes sujets.
Il réinvente, il reprend toutes ses caractéristiques, le cadrage très resserré, cette présence extrêmement forte des figures, grandeur nature, les citations du quotidien, et du coup ce sentiment extrêmement troublant qui émane de ces tableaux, puisque derrière un tableau de David et Goliath, derrière la représentation du couronnement d'épines, ou derrière une diseuse de Bonaventure, vous avez des visages vrais, des visages que vous retrouvez du reste d'un tableau à l'autre et qui sont encore aujourd'hui au XXIe siècle très proches de nous, qui nous bouleversent, même si on ne comprend pas ou on ne connaît pas le drame ou le récit, l'histoire qui est narrée par l'artiste, la seule présence de ces portraits derrière les modèles fait que le tableau ne peut pas rester indifférent à la peinture de Valentin.
Alors, il y a une théâtralité chez Valentin comme chez Caravage, il y a l'utilisation du clair-obscur, les mêmes sujets, donc il reprend également autant de la vie quotidienne que des sujets aussi religieux,
bien entendu,
et c'est vrai que Valentin va quand même être un des artistes les plus brillants, un des suiveurs les plus brillants de Caravage, mais il apporte, comme vous l'avez dit dans la présentation de l'exposition, une certaine mélancolie, une certaine douceur peut-être, par rapport à un Caravage un peu rebelle. Valentin, lui, va plus dans la psychologie des personnages.
Effectivement. Alors, on reviendra sur la vie de Valentin, parce qu'il est tout aussi rebelle, mais différemment à sa façon. Et comme Caravage a eu une vie assez mouvementée, disons. Effectivement, je pense que l'un des apports les principaux de Valentin, qui selon moi est vraiment l'un des artistes les plus importants du XVIIe siècle et l'un des plus singuliers et bouleversants...
Pourtant, aujourd'hui, le grand public est très méconnu du grand public.
Tout à fait, mais c'est l'objet
de cette exposition.
Voilà, la raison pour laquelle vous devez aller la voir, c'est de découvrir cet artiste qui va réinventer Caravage et apporter quelque chose d'extrêmement personnel. Parmi ces éléments, et qui nous touche encore aujourd'hui, c'est justement ce sentiment de plus en plus prégnant au cours de l'évolution de son art, de cette présence psychologique très forte, de cette invitation, enfin cette poésie mélancolique, ce sentiment de pouvoir toucher du doigt l'état d'âme des personnages qu'il peint. Ça va être par un regard troublé, ambigu, ça va être aussi par la représentation d'un concert populaire où on comprend par les accessoires qui sont disposés sur la table, qui est souvent d'ailleurs un fragment d'antique, qu'ils viennent de faire ripaille, ils ont bu, ils ont mangé, ils sont censés faire la fête ensemble. Or, on se rend compte qu'aucun des personnages, alors qu'il y a des soldats qui boivent, des jeunes femmes, enfants, personne ne se regarde. Tout le monde est plongé dans sa pensée et le traitement de la lumière, des coloris, participe à ce sentiment de douceur, de mélancolie étrange, avec à chaque fois un sentiment où on nous interpelle, où cet état d'âme particulier et ambigu des personnages sollicite notre propre interrogation et on se pose des questions, on demande mais qu'est-ce qui se passe, à quoi pense-t-il. La présence aussi de la musique participe de ce sentiment-là.
Et la présence aussi des enfants, beaucoup, je crois.
Oui, alors ça, c'est un autre...
Mais aussi des vieillards, c'est-à-dire qu'il peint finalement tous les âges.
Il peint de manière régulière. Alors, il a même peint une allégorie des quatre âges, où on voit vraiment le passage du temps, qui est mis en scène comme une scène de la vie quotidienne à nouveau, mais qui représente le cycle de la vie et les quatre âges, avec l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Mais effectivement, au-delà de cette allégorie qui traite vraiment du sujet, en fait, c'est un leitmotiv ou quelque chose que l'on retrouve dans tous ces tableaux, où très souvent se juxtapose ou cohabite des tout jeunes enfants, et ça, c'est vraiment une singularité de Valentin, et des vieillards. Il faut savoir que peindre les enfants, c'est extrêmement difficile.
Oui.
Les traits sont moins dessinés et que lui, il sait le faire d'une manière vraiment bouleversante. Par exemple, cette présence de la mélancolie, elle est aussi mise en scène par la figure même de la mélancolie. La figure de la mélancolie depuis la Renaissance et la célèbre gravure de Dürer, c'est un personnage qui va poser sa joue sur sa main. Et vous le retrouverez, et je vous invite à aller découvrir ce détail d'un tableau à l'autre, jusqu'au ce qu'on appelle le célèbre concert au bas-relief du musée du Louvre, où au centre d'un concert populaire, comme l'un de ceux dont je vous parlais, il y a un très jeune enfant, un petit garçon, et il reprend la pose du mélancolique. C'est comme s'il lui-même donnait le « la » au concert, et un « la » et un ton mélancolique à ce concert, qui, au-delà du concert, invite effectivement à méditer sur le temps qui passe, le caractère éphémère de tout plaisir des sens, la précarité de toute condition humaine, une sorte de méditation métaphysique.
Alors, c'est vrai que sur ce caractère un peu éphémère de la vie, des moments qu'on peut vivre avec des amis, par exemple, si on revient à la vie même de Valentin, c'est quelqu'un qui va dans les tavernes, boit, fait la fête, fréquente donc les endroits qu'il peint ensuite. Et je crois qu'il va d'ailleurs beaucoup fréquenter des artistes, mais alors pas les Français, plutôt des peintres du Nord. Lorsqu'il arrive à Rome, il ne va pas se tourner vers le cercle des artistes français, mais plutôt vers le cercle des peintres du Nord. Pourquoi ?
Alors effectivement, je pense qu'il faut savoir que la Rome du XVIIe siècle, pourtant la capitale de l'Église catholique, juste à la suite du Concile de Trente et de la réforme tridentine, n'est pas du tout celle que l'on peut imaginer aujourd'hui. C'était l'objet de l'exposition dont j'avais été commissaire, les fond du baroque au Petit Palais. Rome est une capitale internationale où vous retrouvez toutes les nationalités européennes et même au-delà, et une communauté artistique extrêmement riche, je l'ai dit, variée, notamment les artistes venus du nord des Alpes, les Français mais aussi les Flamands, les Hollandais, les Scandinaves, les Allemands, et ceux-ci vont créer vers 1619, une association libre d'artistes, un genre nouveau, qu'on appelle la Schilderbund ou la Bent, ce qui veut dire un peu l'association des artistes, la bande des artistes, et eux-mêmes vont se surnommer les Bandvögel, ce qui veut dire les oiseaux de la bande. C'est une association qui a d'abord pour vocation une entraide entre compatriotes, communautés, comme les étudiants d'Erasmus aujourd'hui, tu habites où, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à Rome, on travaille auprès de qui. Il faut savoir que...
Ils sont tous dans le même quartier de Rome.
Ils habitent tous dans le même quartier. Tous les artistes d'ailleurs de manière générale, mais eux-mêmes partagent des appartements. Et Valentin, lorsqu'on trouve trace de lui, car il faut savoir que c'est un artiste qui demeure très mystérieux, qui nous échappe. Alors ça aussi, ça participe du mythe de l'artiste bohème en quelque sens. Lorsqu'on trouve trace de Valentin, il habite avec des Nordiques, non pas avec des Français, avec des Lorrains, des Flamands, peintres ou sculpteurs. Ces artistes, les Bandvögels, vont donc se retrouver ensemble, mais au lieu de se retrouver dans une académie, ils se retrouvent dans les tavernes de Rome et décident de se placer sous la figure tutélaire de Bacchus. Bacchus, dieu de l'ivresse, dieu de l'excès, dieu du vin, mais également dieu de la création artistique, au même titre qu'Apollon, mais évidemment selon des critères différents. Et faire le choix de Bacchus plutôt d'Apollon à Rome au XVIIe siècle, ça c'est une prise de position, une profession de foi particulière. Et il faut savoir que du coup ces artistes-là, donc Valentin, vont faire revivre à Rome les rites bachiques antiques. Lorsque Valentin sera admis à la peine Vogels, on va, comme pour tout nouveau membre, lui faire vivre un banquet orgiaque toute la nuit dans l'une des tavernes de Rome. Et ça prend des proportions que vous ne pourrez imaginer. Rien n'a été inventé, tout a été inventé, je veux dire, beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait penser. Il va être baptisé au vin. Vous pouvez imaginer la résonance de ce type de baptême dans la Rome catholique du XVIIe siècle. On va lui donner aussi un surnom. Alors Valentin a un surnom très évocateur qui est celui de l'amoureux, l'amador en espagnol. Est-ce que ça veut dire le don juan invétéré ou au contraire les conduits mélancoliques et tristes? On l'ignore. Mais pour vous donner une petite idée, certains de ses amis caravagesques notamment, comme un autre artiste hollandais qui s'appelle Dirk van Barburen, avait pour surnom la mouche à bière. Ou bien Nicolas Régnier, un peintre caravagesque également franco-flamand, s'appelait l'homme libre. Donc après, on peut rêver et disserter sans fin sur ces surnoms évocateurs. Il était aussi, au moment de son intronisation, accueilli par d'autres collègues donc, de la peine Vogels, déguisé en Bacchus, en satyre, en Pan, et il avait le droit à une sorte de tableau vivant qui faisait revivre les rites bachiques. Et puis au petit matin, très régulièrement, alors on ignore si ce fut le cas pour Valentin, mais c'est fort probable, tous ces artistes éméchés partaient à pied faire une sorte de pèlerinage dans une petite église qu'on pensait être le temple de Bacchus, où il faisait une sorte de dernière libation devant un autel en porphyre, et ils ont ensuite apposé leur signature avec leur surnom de Pen Vogels, sorte de graffiti avant l'heure que l'on peut encore admirer à Rome dans cette église.
Alors, c'est quelle église du coup à Rome si on veut?
La petite église où vous pouvez découvrir les graffitis des Ben Vogel s'appelle Santa Costanza et se trouve au nord de Rome sur la Via Nomentana. Je vous invite à aller découvrir ces graffitis et vous pourrez aussi admirer les mosaïques paléochrétiennes justement sur le thème de Bacchus qui a fait croire à ces artistes qu'il s'agissait d'un temple antique dédié à Bacchus.
Alors justement, puisqu'on est dans Rome, dans quel autre endroit, je profite de vous poser cette question, on peut voir peut-être encore des œuvres de Valentin qui ne seraient pas dans des musées? Est-ce qu'il y en a encore?
Alors, il n'y a pas de tableau de Valentin dans les églises.
Dans les palais peut-être?
Mais dans les palais et les musées ou ex-palais devenus musées, bien entendu. Et notamment, là, vous pouvez découvrir. Alors, pour le moment, ils sont tous à l'exposition du musée du Louvre.
Après l'exposition.
Et après l'exposition, mais il faut tout de même aller les admirer parce que vous les verrez mieux éclairés de plus près dans l'exposition. Oui. Vous pouvez aller à Palazzo Barberini, la Galleria Nazionale d'Arte Antica à Rome, où vous pouvez admirer trois des plus grands chef-d'œuvre de Valentin, par exemple.
D'accord. Alors justement, en parlant des chefs-d'œuvre de Valentin, il connaît une apogée de sa carrière, en fait, dans les années 1627-1630. C'est-à-dire qu'au début, bon, c'est un jeune artiste qui est quand même très connu dans Rome, ça on ne le sait pas vraiment. Et puis, donc, il va avoir des commandes, vous nous l'avez expliqué, du cardinal Barberini, justement, mais aussi des commandes pour la basilique Saint-Pierre, rien que ça. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire pour un artiste de cette époque, d'avoir une commande pour la basilique Saint-Pierre.
Effectivement, donc il faut s'imaginer que notre Valentin, qui la nuit boit, fume à excès avec ses amis nordiques, le jour, travaille pour les cardinaux, les marquis et la famille papale. Le pape à ce moment-là est Urbain VIII, Maffeo Barberini, donc la famille Barberini domine Rome. Et Valentin, à partir de 1627, ce qui veut dire 6 ans avant sa mort, va du jour au lendemain, puisqu'on a très très peu d'éléments sur lui avant cette date-là, du jour au lendemain, il sort de l'anonymat et on se rend compte qu'il travaille pour toute l'élite romaine, pour les plus grands. amateurs et collectionneurs de l'époque, et pour la famille Barberini, et en particulier pour l'homme le plus puissant de Rome à l'époque, qui est le neveu du pape, le cardinal Francesco Barberini. C'est un peu l'équivalent du ministre de la Culture d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui est féru de poésie, amateur d'art, et qui va commander des tableaux et des œuvres au Bernin, à Pierre de Cortone, à Nicolas Poussin, mais également à un peintre caravagesque. Alors que Caravage est mort, décédé depuis plusieurs années, et que les autres représentants un peu du caravagisme ont quitté Rome, Valentin reste l'un des rares représentants fidèles à la révolution du Caravage, et il se voit doté, honoré d'une commande pour un tableau, ce qu'on appelle un retable, pour la basilique Saint-Pierre. Et il faut savoir que c'est, on peut pas, un artiste du XVIIe siècle ne peut pas recevoir une commande plus insigne, plus importante que celle de peindre un retable pour Saint-Pierre. Donc c'est évidemment le couronnement de sa carrière. Il réalise ce tableau énorme, monumental, vers 1629, 1628, 1629. Et lorsque ce retable, alors qui met en scène le martyr de deux premiers chrétiens, Saint Procès, Saint Martin, lorsque ce retable est mis en place dans, sur l'autel où se trouvent les reliques de ces deux premiers martyrs chrétiens, la toile fait sensation. Elle suscite immédiatement un débat auprès de tous les amateurs et le public, puisque l'église est accessible à tous. Et ce débat a pour objet la comparaison entre le tableau de Valentin et le tableau d'un autre Français tout aussi célèbre, Nicolas Poussin, qui un an avant avait aussi peint un tableau pour Saint-Pierre, un autre martyr, le martyr de Saint-Érasme.
Voilà, donc c'est l'autre grand Français, Nicolas Poussin, qui se voit aussi honoré d'une telle commande.
Effectivement, mais aujourd'hui, autant Nicolas Poussin n'a pas été oublié, autant on savait qu'il a fait carrière à Rome, qu'il était célèbre. En revanche, pour Valentin, qui, vous le voyez...
était finalement légal, presque.
Exactement, mais pour des raisons différentes de Nicolas Poussin. Mais lui a été oublié, non pas de son vivant, ni par la suite, on pourra y revenir, mais récemment, au XXe siècle, de la même manière d'ailleurs que Caravage ou d'autres.
Ce sont des redécouvertes quand même par les historiens d'art.
Effectivement.
Au cours du XXe siècle.
Mais Valentin était demeuré un artiste extrêmement recherché, au point où Louis XIV va décorer sa chambre à coucher, qui est vraiment le saint des saints du château de Versailles, ou son administration, deux tableaux de Valentin mis côte à côte avec d'autres tableaux de grands artistes italiens. C'est le seul Français présent dans la chambre de Louis XIV.
Oui, donc Louis XIV vraiment demande que ce soit Valentin,
alors, ça, c'est
des tableaux
difficile.
De Valentin de Boulogne.
Il est très difficile de savoir déterminer avec précision si c'est Louis XIV lui-même qui l'a demandé, mais c'est fort probable puisque Valentin reste dans sa chambre. Et il y a d'autres indices ici qui donnent à penser c'est que, a priori, Louis XIV, oui, a sans doute participé à ce choix.
Donc Valentin rentre dans la chambre du roi, il rentre à Saint-Pierre, donc quand même, voilà, il rentre dans des lieux quand même très exceptionnels. Et vous disiez que la comparaison entre la peinture de Nicolas Poussin et celle de Valentin de Boulogne a suscité un débat de la part du public et des amateurs d'art.
Oui.
De quel débat s'agit-il précisément ?
Alors, c'était de savoir lequel des deux était le meilleur, lequel avait raison dans les différents choix artistiques qu'ils avaient faits, puisque Nicolas Poussin représente un peu ce dont on a parlé au tout début de l'émission, la recherche du beau idéal dans la tradition de Raphaël et ensuite des
Caravages. Très académique. On pourrait dire.
Académique entre guillemets, voilà, mais effectivement, alors que Valentin est reconnu pour justement sa peinture d'après-nature, l'héritage de Caravage. Alors le débat se poursuit pendant plusieurs jours, et puis on en conclut, nous rapportent les sources contemporaines, que finalement ils sont tous les deux à égalité, qu'ils doivent tous les deux être mis au panthéon des plus excellents peintres. Nicolas Poussin pour le dessin et l'expression des passions, et Valentin, et je cite, la source pour le vrai naturel, hein, ce qui veut dire vraiment ce choix de peindre d'après nature et de laisser présent ce modèle vivant, pour le coloris et l'harmonie, ce qui veut dire un peu pour la couleur, pour la palette vénitienne ou la palette, l'importance accordée à la lumière et à la couleur.
Donc là, on voit se dessiner doucement deux écoles, deux manières de peindre différentes,
oui.
Qui ensuite, au cours des siècles, hein, il y aura les tenants de la couleur et les tenants du dessin, jusqu'à Rubens, par exemple.
Effectivement, ça c'est la façon dont en France, ensuite, on a départagé ou...
Dans l'histoire de l'art, voilà, on a
effectivement, mais au XVIIe siècle...
De faire la part comme ça, alors
entre,
à l'époque...
Voilà, la querelle de la couleur et du dessin. Et dans ce cas-là, Valentin représenterait effectivement la couleur. Mais il faut savoir aussi que notre Valentin, ce qui a peut-être aussi participé à son oubli, c'est qu'il meurt très jeune, à 41 ans, en 1632, au mois d'août, à Rome. Il reste fidèle toute sa vie à la manière de Caravage, à cette peinture d'après nature, tout en la métamorphosant, en la transformant. Mais il va aussi rester fidèle à sa vie, au Bentvogels, et deux sources différentes. Du coup, on peut croiser les témoignages, rapportent qu'il va mourir extrêmement brutalement à la suite d'une nuit de débauche, où il aurait trop bu, trop fumé et joué d'excès les plus divers. Enflammé par tous ses excès, il rentre dans la nuit chaude de Rome et se jette dans une fontaine, la fontaine du Babuino, qui se trouve derrière la place Navone, afin d'essayer de tarir cette flamme qui se rafraîchit et qui l'enflamme, et il va contracter une fièvre terrible, maligne, qui en quelques jours va l'emporter du suite de ses excès. Donc Valentin reste jusqu'à la fin de sa vie à la fois un Bentvogels et jouit d'une reconnaissance extraordinaire, comme dont témoigne à la fois sa commande pour Saint-Pierre et le fait que lorsqu'il meurt, on enregistre dans le...
Oui, les prix. Alors j'ai lu ça, lorsqu'il meurt, effectivement, ses toiles vont tout à coup valoir très cher.
Effectivement, c'est un artiste assez rare. Donc il meurt et le registre des morts de sa paroisse, Santa Maria del Popolo, note à côté de son nom, Pictor Famosus, ce qui est vraiment un signe. Et un ami et contemporain français écrit à un autre peintre français à Paris en disant « Valentin vient de mourir, c'est terrible ». Et du reste, on ne peut plus trouver de ces tableaux, et lorsqu'on en trouve, ils valent 3-4 fois plus cher qu'ils ne valaient il y a quelques mois. Donc c'est à nouveau dire la rareté de son art et son succès.
Et la réputation, donc,
et la réputation de l'artiste,
de son vivant et juste après sa mort, et à tel point que les collections royales vont aussi acquérir des toiles de Valentin de Boulogne, par le biais de Mazarin.
Effectivement. Alors, étant donné que ça reste un artiste extrêmement mystérieux et qu'on ne sait presque rien avant les 6 dernières années avant sa mort, on ignore aussi très souvent pour qui ont été peints les tableaux de Valentin et ensuite comment ils sont arrivés, notamment à Paris.
Il signait ces tableaux, Valentin ?
Aucun tableau signé.
Oui, donc d'où aussi la difficulté
de reconstituer son corpus.
Pour vous, en tant qu'historien d'art.
Exactement. C'est vraiment l'œil qui travaille ici. Mais vous le verrez, je pense que ça se ressent lorsqu'on a parcouru l'exposition. C'est un artiste tellement singulier, particulier, personnel, que sa manière est très frappante et du coup on le reconnaît aisément. Et notamment, toujours aussi, d'une qualité exceptionnelle. Ce n'est pas un artiste qui a des chutes de qualité. Mais pour revenir à votre question, on a plusieurs traces qui nous font comprendre que les œuvres de Valentin arrivent très tôt à Paris. Et notamment, le cardinal Mazarin est l'un des collectionneurs très importants de Valentin à Paris. Et lorsque l'administration royale va chercher à enrichir les collections royales pour Louis XIV, donc on se rend compte que chacune des grandes ventes parisiennes ou qui comportent des Valentin vont être l'administration royale va mettre la main sur ces ventes et va acquérir les Valentins du marché parisien.
Donc Mazarin acquiert 9 toiles, j'ai noté ça, de Valentin, qui rentrent dans les collections royales. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 6 Valentins au musée du Louvre.
Oui, c'est le musée du Louvre.
Elles proviennent justement de cette collection royale.
Elles proviennent des collections royales, bien entendu, des collections de Louis XIV. Le musée du Louvre est le musée qui comporte le plus grand nombre de tableaux de Valentin au monde. Les autres musées riches en Valentin ne vont pas au-delà de 3 toiles. Donc c'est vraiment une collection extrêmement importante. Et tous ces Valentins-là proviennent de la collection de Louis XIV, en partie de Mazarin, mais aussi de d'autres grands personnages de l'époque, comme le financier Yabac.
Et alors, il y a aussi une toile à Saint-Jean-de-Maurienne, je crois.
Effectivement, lors de l'exposition, nous avons fait le périple avec mon collègue américain de New York, Kit Christensen. Je l'ai emmené jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, à la frontière entre la France et l'Italie.
Pourquoi un Valentin de Boulogne se retrouve dans l'église de Saint-Jean-de-Maurienne? C'est un dépôt du musée du Louvre?
Non, pas du tout. C'est parce qu'un chanoine, au tout début du XVIIIe siècle, a donné à la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, elle-même consacrée à Saint-Jean-Baptiste, un tableau de Valentin représentant un magnifique, étonnant Saint-Jean-Baptiste. Alors, comment ce chanoine français a pu entrer en possession du Valentin, nous l'ignorons, mais depuis le XVIIIe siècle, le tableau est resté sur place et était sans nul doute considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la cathédrale, ou l'un des plus beaux, parce que l'on sait que jusqu'au début du XXe siècle, lors de la fête de Saint-Jean-Baptiste, qui était donc à la fois la fête de la cathédrale, de l'église principale, mais de la ville aussi, puisque c'est Saint-Jean de Maurienne, le tableau de Valentin était exposé pendant les 3 jours de la fête, dehors, au-dessus de l'entrée principale de la cathédrale.
Et est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça, assez peu connus, où on peut trouver des Valentins, ou c'est le seul ?
Ah non, il y en a encore en Italie, notamment dans de nombreuses petites églises du nord de l'Italie ou près de Rome.
Parce que de manière générale, c'est un artiste très prolifique, Valentin.
C'est surtout qu'il est mort à 41 ans. On a trace de sa présence à Rome de manière certaine en 1614. On pense qu'il y arrive peut-être vers 1609, ce qui veut dire qu'on a un temps de création extrêmement court d'une 20aine d'années. Du reste, nous avons pu recenser à peu près aujourd'hui 60 œuvres certaines de Valentin de Boulogne. Il y en avait sans doute beaucoup plus, mais c'est une carrière extrêmement courte, du coup très intense. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des tableaux de Valentin se trouvent dans des collections publiques, dans des musées du monde entier.
Alors, au même titre que Caravage, qui a inspiré d'autres artistes après lui, Valentin de Boulogne, lui aussi, va inspirer d'autres artistes. Il va être regardé par des artistes comme David, par exemple, un peu plus tard.
Effectivement. Alors, a priori, Valentin non plus n'a pas eu de grands ateliers. On sait qu'à la fin de sa vie, où il doit mieux gagner sa vie, il a un assistant. On voit aussi, lorsqu'on étudie finement les créations des autres artistes appelés caravagesques, c'est amis proches ou pas des jeux de transfert culturel, d'influence. Mais effectivement, quand je vous disais qu'en fait c'est un écho XXe siècle qu'on a oublié Valentin, lorsque David se rend à Rome, il en parle et on le sait, il va peindre un certain nombre de chefs-d'œuvre, à la fois pour parfaire sa formation, sa pratique, et il choisit, il le dit, de copier cette fameuse scène, la dernière scène dont je vous ai parlé, peinte pour ce grand collectionneur, amateur et protecteur de Caravage, Astolbale Mattei. Il va peindre la scène de Valentin en disant je choisis cette œuvre-là parce que c'est un chef-d'œuvre de la couleur, de l'expression au travers de la couleur et de la lumière, et c'est ce qui manque à l'école française.
Alors, Sébastien Allard, qui est également commissaire avec vous de l'exposition, qui est donc le directeur du département des peintures au musée du Louvre, a eu cette phrase qui m'a marquée lors de la présentation de l'exposition. Il a dit « Vous venez pour Vermeer, vous vous souviendrez de Valentin ». Alors, c'est quand même super comme image. C'est-à-dire que, effectivement, bon, Vermeer, on connaît, on adore, mais Valentin va nous marquer, va nous frapper par son art.
Effectivement, c'est un petit peu notre slogan. Ça n'est pas notre invention, ce sont des collègues amis du Louvre, mais on avait trouvé ça très, très juste. Ce qu'il faut savoir, c'est que du reste, à New York, lorsque l'exposition a été présentée sans avoir Vermeer comme voisin, ça a été vraiment une révélation, une découverte. Du grand public, des amateurs, parfois des historiens de l'art. Beaucoup d'artistes aussi sont venus voir l'exposition en nous disant « Mais comment ça se fait qu'on ne connaissait pas cet artiste avant ? Pourquoi on n'a jamais, il a jamais encore eu d'exposition monographique sur l'artiste, puisque c'est la première ?» Il fallait que ça purisse, il fallait que ça soit le bon moment. C'est une exposition extrêmement difficile à monter, avec des œuvres très fragiles et provenant du monde entier, des prêts exceptionnels.
Alors vous, en tant que spécialiste du caravagisme, en tant que passionné de Valentin de Boulogne, quelle est votre œuvre préférée de cet artiste ?
Alors ça, c'est une question extrêmement difficile auquel je ne saurais répondre.
Vous en avez une,
hein ? Oh non, j'en ai plusieurs.
En tout cas, ce qui est beau, je trouve, dans l'œuvre de Valentin, c'est, on en a parlé, bon, la théâtralité, l'expression, l'expressivité en fait de sa manière picturale, mais il a aussi tendance, j'ai l'impression, à reprendre un peu les mêmes visages. Parfois, on a l'impression qu'il se peint lui-même.
Oui, comme Caravage, effectivement, si vous regardez attentivement, vous retrouverez les mêmes visages, le même vieillard qui était un de ses modèles privilégiés d'un tableau à l'autre. Et du coup, il fait poser tantôt comme Saint Matthieu, tantôt comme un harpiste qui accompagne une bohémienne, ou tantôt comme le dieu fleuve Tibre. De même que pour des visages d'enfants, pour des visages de femmes. Et ça, c'est aussi très frappant parce que du coup, on a l'impression d'être hanté en sortant de l'exposition par tous ces visages et un peu le quotidien de Valentin en certains sens. En tous les cas, il donne cette impression-là. Comme Caravage, d'ailleurs, qui a de manière récurrente utilisé ses propres traits et inséré, du coup, son propre autoportrait dans ses tableaux, on s'est posé la question, ce n'était pas le cas de Valentin. On ignore son iconographie, on ignore quels sont les traits de son visage. Aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on retrouvera un portrait d'un autre peintre qui a peint Valentin ou un dessin. Mais il y a certains tableaux, et notamment deux, et un des tableaux du début, représentant Saint Jean-Baptiste, et qui est vraiment déroutant, parce que on voit tout à la fois un saint, Saint Jean-Baptiste, de manière évidente. Il y a la peau de bête, le drapé rouge, l'agneau à ses côtés. Mais derrière ce Saint Jean-Baptiste, on voit aussi de manière tout aussi frappante un portrait. Quelqu'un qui nous regarde très fixement, l'intensité de son regard, mais aussi certains détails qui sont anachroniques, comme une petite moustache et qui reprend vraiment la mode du XVIIe siècle, nous donne à penser qu'il s'agit là de manière évidente d'un portrait. Et puis ensuite, quand on regarde comment il tient, quelle est sa position, on a vraiment l'impression aussi qu'il semble se retourner pour nous regarder, et la position de ses deux mains donnerait à penser que ce tableau aurait pu être peint d'après par l'artiste lui-même, et donc ce serait son autoportrait d'après un miroir. Et si vous imaginez dans une main sa palette et dans l'autre le pinceau, ça fonctionne assez bien. Alors c'est une hypothèse, mais on s'est vraiment posé cette question. Et il y a d'autres tableaux, un autre sergent l'évangéliste, où là aussi c'est tellement frappant, on a vraiment l'impression de voir en premier un portrait et ensuite Saint Jean. Alors évidemment, c'est un jeu, hein. C'est un jeu pour impliquer le spectateur, pour aussi une sorte de façon d'actualiser l'histoire par le présent et de jouer entre la fiction et la réalité, entre le passé et le présent, entre la peinture religieuse et le quotidien du peintre. Et c'est ce qui rend très fort et très troublant les tableaux de Valentin.
Très troublant et toujours finalement très accessible pour nous, grand public, dans l'émotion.
Effectivement, je pense que si Caravage a connu un tel succès, c'est d'abord parce que c'est un artiste extraordinaire, effectivement, mais c'est aussi parce que sa façon de peindre, avec les coups de projecteur comme au cinéma, le cadrage très resserré, cette présence vivante et tangible, et que reprend Valentin, la redouble et lui...
La réinvente
avec aussi un ton peut-être plus mystérieux, et puis des couleurs très particulières. Ce sont autant d'éléments qui correspondent au goût d'aujourd'hui et au cinéma et à la photographie d'aujourd'hui qui nous habitent, nous hantent, nous envahissent aujourd'hui.
Merci beaucoup Annick Lemoine de nous avoir fait partager donc l'aventure de Valentin de Boulogne dans la Rome du début du XVIIe siècle, votre expertise et puis votre passion aussi pour cet artiste. Nous avons abordé beaucoup de thèmes dans cette émission, la vie de Valentin, sa manière de peindre, sa gloire aussi dans les années 1600, à la fin des années 1620. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes donc commissaire de l'exposition Valentin de Boulogne réinventer Caravage. Vous êtes également directrice scientifique du Festival de l'Histoire de l'Art qui va avoir lieu en juin prochain donc à Fontainebleau. Alors si vous voulez nous dire un petit mot voilà, sur ce festival qui aura lieu le 2, le 3 et le 4 juin 2017 à Fontainebleau, juste en passant, quel est le thème cette année?
Alors cette année, le thème du Festival de l'Histoire de l'Art est celui de la nature dans les arts, sous toutes ses facettes, dans tous ses états, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Le pays invité sont les États-Unis, donc vous saurez tout sur l'art américain, de l'art amérindien jusqu'à Jeff Koons, en passant par Warhol ou Hopper, et le cinéma comme Wise Mind. Il y a aussi toujours un forum de l'actualité, c'est une manifestation gratuite, ouverte à toutes, une fête de l'histoire de l'art qui se déroule pendant 3 jours dans le château et toute la ville de Fontainebleau.
Voilà, donc on vous invite présentement à aller voir évidemment l'exposition Valentin de Boulogne réinventer Caravage au musée du Louvre jusqu'au 22 mai. Et puis bien sûr, rendez-vous donc pour une deuxième manifestation en juin prochain. Merci beaucoup Annick Lemoine.
Je vous remercie.